RFI 8h30, à Paris 7h30, en temps universel.
RFI Matin.
Et un nouveau journal avec vous, Vincent Dublange.
Et les combats qui se sont poursuivis à Saké, près de Goma, hier samedi. Ils reprennent sur un autre front ce matin au nord de la grande ville. Les armes ne se taisent pas dans l'est de la RDC. Que pourra la diplomatie ? Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en tout cas, se réunit aujourd'hui. Goma qui est toujours sans électricité et sans eau pour beaucoup d'habitants. Reportage dans un instant. À suivre dans ce journal, ne pas oublier Mohamed Bazoum et sa femme retenus depuis un an et demi dans leur résidence à Niamey. L'un des soutiens du président nigérien renversé prend la parole. Le journal des sports dans 10 minutes et des buteurs africains à la fête hier en première ligue anglaise de foot. RFI en a profité pour aller se plonger dans les racines du crack ivoirien, l'attaquant Amad Diallo. On va parler aussi handball. Égypte-Cap-Vert à suivre aujourd'hui au Mondial. Le Cap-Vert à l'honneur musicalement dans cette édition. Elle est entourée du producteur de Cesaria Evora. Rien de moins, elle est une nouvelle voix de la diaspora africaine. On vous présente Julieta Cohen. Mais d'abord, ces combats. Donc ce matin, au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, M23 et armée congolaise, avec leur soutien respectif, s'y affrontent dans le territoire de Nyiragongo. Hier, les affrontements intenses se sont concentrés autour de Saké à l'ouest de Goma. Le groupe armé M23 a tenté une percée plus au sud, le long du lac Kivu. L'armée congolaise affirme l'avoir repoussé. 13 soldats étrangers sont morts, de la MONUSCO et de la force d'Afrique australe qui défendent Goma. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence dès ce dimanche. La RDC rompt ses relations diplomatiques avec le Rwanda. L'Union africaine demande un retour au cessez-le-feu, mais sans citer M23 ou Rwanda, ce qui agace Kinshasa. Le Rwanda, lui, critique les menaces de sanctions de l'Union européenne. Côté humanitaire, la situation s'aggrave alors que toutes les routes terrestres d'accès à Goma sont désormais coupées. La ville compte 2 millions d'habitants, résidents habituels ou déplacés internes. Et il n'y a plus d'électricité, d'importantes coupures de l'eau également. Reportage à Goma, héritier Baraka.
Au quartier Mabanga Sud, au cœur de la ville, c'est l'obscurité qui nous accueille. Ici, les habitants allument des torches et bougies dans leur maison pour s'éclairer. Maombi, une vieille vendeuse de maïs, se plaint aussi du manque d'eau.
Nous vivons sans eau et sans électricité depuis qu'ils ont coupé la connexion lors des combats. Nous achetons des piles et une torche qui nous aident à voir.
Un peu plus loin, Cambert et Moïssan, un jeune de Goma, qualifie cette situation inacceptable.
Et donc Goma, en ce moment, ou depuis avant-hier, est dans le noir, mais aussi l'eau ne coule pas dans nos robinets. Et donc ça, c'est très grave, parce que ce sont les éléments essentiels pour la vie de l'homme. Nous sommes en train de vivre plus que la souffrance.
La société civile locale de la ville de Goma parle, elle, d'une situation catastrophique.
Des hôpitaux qui reçoivent les blessés ont une carence en électricité, ce qui est un problème.
Vendredi dernier, la société Virunga a annoncé dans un communiqué que les lignes qui permettaient de servir Goma et Nyiragongo en électricité avaient été endommagées lors des affrontements entre les FARDC et alliés et les M23 soutenus par le Rwanda. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Radio France Internationale, il est 9h33 à El Fasher, la dernière grande ville du Darfour, non contrôlée par les paramilitaires FSR du général Hemeti. Elles assiègent la cité qui compte autour d'1,5 million habitants, et c'est dans ce contexte d'offensive récurrente des paramilitaires qu'un hôpital a été bombardé par drone. C'était vendredi soir. 67 personnes, au moins des civils, sont décédées dans l'attaque. C'est ce que disent deux sources locales. Il y a aussi un nombre indéterminé de blessés. Les urgences de l'hôpital saoudien d'El Fasher sont détruites. C'est l'une des dernières structures de santé dignes de ce nom dans la capitale du Darfour Nord. Un an et demi qu'il est retenu dans la résidence présidentielle à Niamey, Mohamed Bazoum et son épouse ne sont toujours pas libres de leur mouvement. 18 mois donc, jour pour jour, après le putsch qui a renversé le chef de l'État élu. Son fils a été libéré grâce à une médiation togolaise, mais Inda et Mohamed Bazoum demeurent enfermés dans leur maison. En juin dernier, l'immunité présidentielle de l'ancien chef d'État a été levée. Maître Mamadou Ismaïla Konaté est un ex-ministre malien de la justice. Il a coordonné le livre 25 lettres au président Mohamed Bazoum, qui a paru en décembre aux éditions Cartala. Maître Mamadou Ismaïla Konaté appelle une nouvelle fois le monde à ne pas rester indifférent.
Toutes les personnes éprises de droit, de liberté et surtout de paix doivent être révoltées par cette situation que nous impose la junte militaire au Niger. Voilà 18 mois que le président Bazoum a été renversé. Non content de cela, on le maintient en situation de détention illégale et irrégulière. Il n'est présenté à aucun juge et il vit dans des conditions misérables. Voilà ce que la face du monde doit savoir de cette junte militaire. Et cette situation est d'autant plus révoltante et d'autant plus inadmissible que nous menons un combat acharné aujourd'hui pour obtenir sa liberté, pour obtenir qu'il redevienne lui-même, pour obtenir qu'on puisse au moins rétablir le droit face à une démarche de violation du droit et des libertés.
L'ancien ministre malien de la Justice, soutien de Mohamed Bazoum, maître Mamadou Ismaïla Konaté, interrogé par Magali Lagrange. En Côte d'Ivoire, l'ambassade du Niger parle d'une rafle de mendiants nigériens. D'après un courrier de la représentation diplomatique daté de cette semaine, la police ivoirienne aurait arrêté 124 ressortissants nigériens dans plusieurs communes d'Abidjan. Les forces de l'ordre ivoiriennes les auraient ensuite débarquées sans concertation dans les locaux de l'ambassade nigérienne dans la capitale économique ivoirienne, et cela dans le but que Niamey organise leur rapatriement au Niger. Les diplomates nigériens sur place, le ministère ivoirien de l'Intérieur n'ont pour le moment pas donné suite à nos sollicitations. L'ONU nomme une envoyée spéciale pour la Libye, l'ancienne ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Anna Serwa Tété. Elle est la septième diplomate à occuper ce poste sensible. Elle succède donc au Sénégalais Abdoulaye Batili qui avait jeté l'éponge en avril 2024. Au Nigeria, cette question: et si la production de pétrole reprenait en terres Ogoni dans le delta du Niger, déjà très pollué par les hydrocarbures? D'après un communiqué de la présidence nigériane, le gouverneur de l'état de Rivers a en tout cas plaidé pour lors d'une réunion à la villa présidentielle à Abuja cette semaine, réunion à laquelle étaient conviés des représentants du peuple Ogoni et la NNPCL, l'entreprise nationale pétrolière au Nigeria. Une réunion qui est vue d'un très mauvais œil, Pauline Glaise, par une vingtaine d'organisations de la société civile.
Depuis les années 1990 et des manifestations contre un nouveau projet d'oléoduc de Shell, le pétrole n'est plus extrait du sous-sol des terres Ogoni. Depuis longtemps, des velléités de reprise se font entendre, explique Alex Soul, spécialiste du delta du Niger, mais il constate une accélération du processus.
En décembre, le gouvernement a approuvé la vente de sites appartenant à Shell à un consortium nigérian. Et je crois que cette discussion sur une reprise de la production dans cette zone, cela vient de cet accord. C'est le résultat de l'arrivée de la nouvelle compagnie qui a dit que c'était un atout important et que maintenant que Shell est techniquement hors jeu, il fallait essayer et le faire à la manière nigériane.
Mais une vingtaine d'organisations de la société civile s'offusquent de cette réunion. Célestine Akpobari, responsable du People Advancement Center et défenseur des droits de l'environnement.
Le président du Nigeria devrait arrêter tous les plans visant à reprendre l'extraction sur les terres Ogoni tant qu'il n'y a pas une consultation significative avec le peuple Ogoni et tant qu'il n'y a pas une restauration complète de l'environnement.
Les organisations demandent également le versement de 1 000 milliards de dollars pour le nettoyage du delta du Niger et pour indemniser la population.
Pauline Glaise, service environnement climat de Radio France Internationale. Une clarification de la Commission européenne qui risque de déplaire à Rabat. Les accords aériens signés entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne n'incluent pas le Sahara occidental, précision donnée par Bruxelles, qui intervient alors que le Maroc multiplie les efforts pour asseoir sa souveraineté sur ce territoire, toujours considéré comme territoire non autonome par l'ONU. Amira Sulem.
Alors que de grandes compagnies aériennes européennes desservent désormais Darla, capitale du Sahara occidental, en la présentant comme une ville marocaine, la Commission à Bruxelles risque de perturber leurs plans, selon Khadija Mohsen-Fennen, politologue spécialiste du Sahara occidental.
Ce que ça va changer, parce que ça peut entrer en vigueur immédiatement, c'est que les compagnies aériennes vont aller jusqu'à un aéroport au Maroc. Et ensuite, le transfert va se faire par une compagnie marocaine.
Une clarification qui fait désordre, alors que certains pays européens soutiennent ouvertement le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. C'est le cas de la France, qui a reconnu la souveraineté du royaume chérifien sur ce territoire depuis octobre dernier, mais aussi de l'Espagne, ancienne puissance occupante, en pleine tractation avec Rabat pour le transfert de la gestion de l'espace aérien sur ce territoire.
En fait, la Cour, elle considère que inclure le Sahara au Maroc enfreint les règles du droit international, parce que le principe d'autodétermination qui figure dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies n'est pas respecté.
À ce stade, les compagnies aériennes concernées n'ont pas réagi.
Il est 6h40 à Praia. On va terminer avec cette découverte musicale venue du Cap-Vert, Giulietta Cohen. Certes, née à Paris, mais ses racines clairement sont plantées dans la terre africaine. Elle vit au Cap-Vert. Elle sort un premier album, 22h22, parce que sa grand-mère lui disait que cette heure était un bon moment pour raconter une histoire ou pour prier. Guillaume Thibault.
Insaisissable, subtile, secrète. Difficile de savoir où se trouve Giulietta Cohen quand on l'appelle. Le voyage dans son ADN, l'amour du chant et la sono mondiale en héritage.
La musique, elle vient de la maison, chez nous. On a grandi avec mon oncle qui est collectionneur de vinyle.
Chercher la simplicité. Dès leur première rencontre, le poète et musicien capverdien Mario Lucio a proposé à Giulietta Cohen de fabriquer ce disque.
Et on a eu une rencontre vraiment atypique. Et en fait, au bout de deux semaines d'échanges et de partage musical, il m'a regardé, il m'a dit « Écoute, je veux produire ton album dans ce studio-là, à Lisbonne. » Et voilà.
Soutenu par José da Silva, le producteur de Cesaria Evora, Giulietta Cohen a pu se poser, poser sa voix, ses textes et imposer également ses convictions.
Alors, falso testimonio, ça veut dire un faux testament. Tout ce qui est fait pour nous diviser, c'est des fois des messages qui ont des répercussions énormes sur notre quotidien. Donc, c'est une lutte musicale pour transmettre que des messages de paix. Yo se chan vive, ma quelqu'un cree. Quelqu'un t'aime à paix, tout. Quelqu'un t'aime à alma. Aucun y a corazón te senti.
Le message de paix de Giulietta Cohen sur RFI. Et vous retrouvez Julien Coquel-Rohem.
Merci Vincent Dublange. Bon dimanche.